franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, selon le dernier bulletin prévision saisonnière de Météo France, le trimestre à venir devrait être marqué par un renforcement du phénomène El Niño dans le Pacifique. Ce phénomène climatique qui revient tous les 2 à 7 ans a des conséquences importantes, parfois graves, sur l'ensemble du globe, en entraînant par exemple des cyclones ou des sécheresses.
98, l'année terrible. En Amérique du Sud, des inondations à répétition. Aux États-Unis, de nombreux orages et des typhons. Au Brésil ou en Indonésie, une grande sécheresse avec d'immenses feux de forêt. Tous les continents sont touchés, plus de 20 000 personnes vont mourir, les dégâts vont coûter 35 milliards d'euros.
Les importants ravages liés au phénomène El Niño en 1998. Alors, y aura-t-il un El Niño grande, un El Niño particulièrement fort cette année? Pour répondre à cette question, nous avons au téléphone depuis Toulouse Jacques Richon. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes climatologue à Météo France en charge du dernier bulletin de prévision saisonnière dont nous parlons. Et puis nous recevons également en plateau Éric Guilliard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'Institut Pierre-Simon Laplace au laboratoire d'océanographie du climat. Jacques Richon, selon le dernier bulletin de prévision, le phénomène El Niño devrait être renforcé dans le Pacifique. Que dit exactement votre bulletin ?
Alors, effectivement, on constate pour l'instant des anomalies de température de surface de l'océan dans le centre du Pacifique, au niveau de l'équateur. Et ces anomalies devraient se renforcer et se déplacer vers les côtes de l'Amérique du Sud au cours du trimestre prochain. Alors, c'est de la mécanique classique des phénomènes El Niño. Et la prévision à des échéances du trimestre est une prévision probabiliste, hein, où on cherche pas à déterminer très précisément la chronologie des événements, mais les probabilités pour ce genre de phénomène sont quand même assez fortes pour le trimestre prochain. Ouais,
on sent, hein, pour le moment, ce sont des probabilités, vous êtes au conditionnel, on va essayer de faire la part des choses, voir ce que l'on sait et ce qui risque d'arriver. Éric Guilliardi, on peut peut-être prendre quelques secondes pour rappeler ce que c'est exactement que ce phénomène, quand il survient, quels sont les facteurs qui le favorisent.
Tout à fait, alors El Niño, c'est une anomalie du couple océan-atmosphère.
Oui.
Qui sont très enlacés dans les tropiques, tous les deux, ils fonctionnent ensemble. Donc pour comprendre l'anomalie, il faut comprendre l'état normal, voir qu'est-ce qui se passe dans les années où il n'y a pas El Niño. Eh bien, les tropiques sont chauds, le soleil chauffe la surface de l'océan. Les alizés qui soufflent d'est en ouest poussent cette eau chaude vers l'ouest du bassin. Donc vers l'ouest du bassin, on est où ? En Indonésie, il y a une piscine d'eau chaude assez développée, au-dessus de laquelle il y a ce qu'on appelle énormément de convection atmosphérique. Les gros nuages, il pleut énormément. Par contre, dans l'est du bassin, la température de surface de la mer, elle, va être plus faible. Typiquement de 22 à 25 degrés, hein, suivant la saison, alors que dans l'ouest, on est à plus de 28. Donc ça, c'est le système normal. Et cette différence de température entre l'est et l'ouest engendre aussi une différence de pression dans l'atmosphère et donc maintient les alizés. Donc on a vraiment un système couplé. Hein, les alizés poussant les eaux chaudes et la différence de température est-ouest maintenant les alizés. Donc ça, c'est la situation normale. Certaines années, le système se dérègle. Les alizés s'affaiblissent, les eaux chaudes reviennent vers le centre ou l'est. Et ça, c'est un événement El Niño qui a lieu tous les 2 à 7 ans, hein, comme vous disiez. Et en fait, toutes les horloges du cycle normal annuel se dérèglent et elles vont mettre un an en raccrochant la saison suivante, l'année suivante, pour remettre le système en marche.
Avec des conséquences pendant cette année, le temps que le système se remette en marche, considérables. Hein, on en a entendu quelques exemples dans l'extrait qu'on a entendu. C'était en 98, l'un des plus grands phénomènes El Niño depuis qu'on enregistre ces phénomènes. Alors, quelles sont les régions du globe touchées et quels sont les phénomènes climatiques qui peuvent survenir ?
Alors la première région touchée, c'est le Pacifique, hein, qui est le berceau d'El Niño. Ça veut dire, on l'entendait tout à l'heure, dans l'ouest, moins de précipitations. En Indonésie, en Australie, des sécheresses intenses. Par contre, dans l'est du Pacifique, il va y avoir au Pérou, par exemple, il y en a eu dernièrement des inondations parce qu'il pleut beaucoup plus. C'est une région très sèche, le Pérou, le Chili, toute cette côte. Et donc là, il va pleuvoir énormément. Autre conséquence des eaux chaudes qui se déplacent vers le central, c'est qu'il va y avoir des ouragans à Tahiti et à Hawaï, qui normalement sont épargnés des ouragans, ils ont lieu plus dans l'ouest.
Ouais.
Ensuite, quand on sort des tropiques, de la région, pardon, du Pacifique, on part dans l'ensemble des tropiques, ou là, que ce soit en Afrique ou dans l'océan Indien, on va aussi avoir des impacts sur des changements de précipitation sur l'Afrique, par exemple, où la mousson indienne est affectée.
Donc on a l'Europe relativement épargnée, parce que là, vous venez de citer presque tous les continents, on a l'impression que tout le monde y a droit, sauf nous.
Alors, j'arrivais aux moyennes latitudes.
Ah, d'accord.
Les premières moyennes latitudes, donc tempérées, touchées, ce sont les États-Unis et l'Amérique du Sud, on va dire, les États-Unis principalement. Chez nous, on est un peu plus loin de ces zones, ce qu'on appelle de téléconnexion, des connexions téléportées par l'atmosphère. Mais il y a quand même un impact qui va être plus faible et qui va être plus difficile à saisir parmi tous les phénomènes climatiques qui modifient le climat chez nous.
Alors, on l'a dit, Jacques Richon, pour le moment, ce ne sont que des probabilités, vous êtes au conditionnel. Est-ce qu'on voit déjà quelques effets d'El Niño? Est-ce qu'on pourrait avoir un grand El Niño cette année?
Alors, les effets actuels sont relativement limités. On peut voir, par exemple, une sécheresse sur le nord de l'Amérique du Sud. Donc nous sommes concernés avec la Guyane, par exemple, et les Antilles. L'évolution au-delà de l'été est un peu plus incertaine. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, on avait une situation qui ressemblait beaucoup. Le démarrage au début de l'été a été assez fort, et puis assez vite, le phénomène s'est atténué. Donc cette année, on est dans une situation un petit peu équivalente. Les conditions sont un petit peu plus favorables malgré tout, donc c'est pour ça qu'on reste prudent. Donc la probabilité que le phénomène s'amplifie jusqu'à Noël, qui est la période d'intensité maximale du phénomène, est assez forte, mais on reste quand même prudent dans la mesure où on a connu l'année dernière un petit peu des déboires dans nos prévisions.
On aura des certitudes à quel moment? Oui, c'est ça, vous le dites, parce que l'année dernière, effectivement, vous aviez annoncé, pareil, avec un certain conditionnel, un épisode El Niño qui
n'est pas survenu. Il est resté faible, donc cette année, la probabilité qu'il soit fort est quand même un petit peu plus élevée. Voilà, donc
on sera à l'été, c'est-à-dire que on pourra affirmer de façon plus sûre si oui ou non nous aurons affaire à un grand phénomène El Niño à peu près au moment de l'été.
Voilà, à partir de l'été, la persistance du phénomène est à peu près acquise. Donc les prévisions de cet été seront un peu plus affirmatives.
Dernière question très rapidement, Eric Ghiliardi. Est-ce que il y a un lien, parce que souvent, dès qu'on parle de phénomènes extrêmes, on pense au changement climatique. Est-ce que là encore, on est dans une des nombreuses conséquences du changement climatique, ou là, ce sont deux phénomènes complètement décorrélés?
Alors, ce ne sont pas deux phénomènes complètement décorrélés, puisqu'il y aura un impact du changement climatique sur El Niño, on va y revenir. Maintenant, El Niño existe depuis des millions d'années. Il est lié à ce couplage entre le sang et l'atmosphère, et à la géographie des continents, donc ça existe depuis longtemps. Ce qui se passe cette année, on ne peut pas vraiment l'attribuer spécifiquement à une évolution du changement climatique, puisque les événements El Niño sont rares, on ne les connaît pas tous bien, ils sont tous différents. Donc, avant d'avoir des statistiques fiables d'attribution, il faudra encore du temps. Par contre, ce qu'on sait, on a publié une étude l'an dernier sur ce phénomène, c'est que dans un climat qui se réchauffe à plus 4 à 5 degrés, qui ce vers quoi on va si on continue à ne rien faire, on aura un doublement des événements extrêmes, comme celui de 97-98. C'est-à-dire, au lieu d'en avoir un tous les 6 événements, on en aura un tous les 3 événements, avec des conséquences de type de ceux qu'on a vus pour 1998.
Merci Eric Ghiliardi et Jacques Richon pour vos explications. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, radiation cosmique, séjourner dans l'espace serait dangereux pour le cerveau. C'est ce que fait craindre une étude de la NASA publiée dans la revue Science. En soumettant des souris à des radiations équivalentes aux rayons cosmiques, les chercheurs ont observé des dégâts importants sur leur cerveau. Les rongeurs souffraient de graves défaillances cognitives, ne reconnaissant plus les objets familiers et n'arrivant plus à se souvenir de nouvelles choses. Voilà les astronautes candidats à un voyage vers Mars prévenus. Et quand les chercheurs ne s'amusent pas à les irradier, ils prennent le contrôle du cerveau de ces malheureuses souris. Des scientifiques de l'Université de Caroline du Nord, cette fois, ont mis au point un procédé chimique permettant d'activer ou non les récepteurs de leurs neurones. Résultat, une souris affamée restait passive devant la nourriture ou, au contraire, se forçait à manger alors qu'elle était repue. Ces travaux devraient permettre de mieux comprendre la communication entre neurones et pourraient aider à développer des traitements contre les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Et enfin, le lien entre pollution et poids des nouveau-nés confirmé. L'étude a commencé pendant les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Les autorités avaient mis en place des mesures drastiques anti-pollution. Des chercheurs chinois et américains ont pu compiler des informations sur 80 000 femmes enceintes à cette période. Les bébés nés sur cette période moins polluée étaient en moyenne 23 grammes plus lourds que les autres. Si cette différence semble faible, elle révèle de grands écarts entre nourrissons sains et bébés fragiles et en danger.